L'affaire Ida Bossard, tuée pour survivre. Il faudra, à un moment ou un autre, crever l'abcès. À Salomé, à l'euphorie de ne plus ramper sous le joug du mastodonte nazi, succède un sentiment poisseux de culpabilité. Personne dans la commune ne peut prétendre ignorer tout, de la maltraitance subie par les enfants, du comportement intolérable de leur père, en privé, en public, de ses propos, ses écarts, ses délits. Ida a bien fait de le zigouiller, se dit-on au café, à l'épicerie, quand bien même ce n'était pas à elle de le faire. À qui alors? Ces remords qui rongent, qui pèsent, il suffit de s'en délester, de les refiler aux voisins, témoins directs du quotidien abject, aux gendarmes dont on soupçonne certains de partager des idées politiques nauséabondes et d'avoir fermé les yeux, au corps enseignant, à l'ensemble des services, DAS, assistants sociaux, juges pour enfants, parfois à deux doigts d'extirper les filles de cet enfer, constamment heurtées aux paters tyranniques, seigneurs du coin, qui plient le monde à sa volonté. Oui, les sœurs ont pu se confier à des gens extérieurs, briser l'omerta, appeler à l'aide. Ida surtout a su le faire, dès 8 ans. Mais tout espoir s'écroule systématiquement quand vient le moment de toquer à la porte des Bossards, quand la silhouette de l'ogre remplit l'embrasure. Chez lui, les règles changent, la loi ricoche, s'écroule à côté des poubelles. Le pavillon était une zone de non-droit, un vase clos dans lequel ses habitants demeuraient à la merci de leur chef. En huis clos également se déroulera le procès d'Ida Bossard, ouvert le lundi 18 mai 1992 à la cour d'assises pour mineurs de Douai. Ida a 20 ans, des cheveux mi-longs, des vêtements ordinaires, un blouson sur un chemisier à fleurs, des jeans, finis les croix celtiques. Tout n'est pas rose, elle a enchaîné ses 3 dernières années dans les foyers, les familles d'accueil, les squats, la drogue. Elle a rencontré quelqu'un, ils ont eu une petite fille il y a peu, elle ne veut pas aller en prison. Ida est défendue par une jeune avocate de 27 ans, qui n'a jamais plaidé aux assises. Blandine Lejeune, du barreau de Lille, exerçant dans le cabinet d'un certain Dupont-Moretti. En face d'elle, le ministère public, une avocate générale, Monique Sonrel, et c'est tout. Le banc des parties civiles est vide. Personne ne s'est senti victime, n'a engagé de poursuite contre Ida. Personne n'a souhaité témoigner à la barre en la mémoire de Jean-Claude Bossard. Le parquet a cité à comparaître les 4 autres sœurs, la mère, qui entre-temps a refait sa vie avec un nouvel homme, ami de son ancien mari et membre du PNFE, aussi mal léché, peu commode, doux euphémisme. Jusqu'au jour J, nul ne savait de quel côté Jacqueline, Christine, Mathilde, Erika et Edwige allaient s'asseoir. À l'arrivée et à l'unisson, elles reconnaissent le geste salvateur d'Ida. C'est elle qui a sauvé la famille, c'est elle qui les a sauvés. Tel est l'angle choisi par Maître Lejeune pour sortir sa cliente de là, celui de la légitime défense. La stratégie est contestée par l'avocate générale, dans le sens où la victime dormait profondément à l'heure de sa mort et ne représentait pas, au moment du crime, un danger concret. Ce à quoi l'avocate de la défense rétorque qu'il faut prendre du recul, se rappeler de l'arsenal tapissant le pavillon, de la grenade retrouvée en perquisition au fond d'une bouteille de gaz, de l'ultimatum du père Bossard, arrivé à un point de non-retour, prêt à massacrer les siens sans l'once d'une hésitation. Ida ne regrette pas ce qu'elle a fait. Devait-elle attendre que sa sœur Christine reçoive une balle dans chaque genou, de se vider de son sang, suspendue par les pieds à la cave? Qu'elle et le reste de sa famille explosent dans la voiture? Les psychiatres convoqués abondent. Ida a dû choisir entre ses sœurs, sa mère et son père. Elle tue ou elle regarde tuer. Il n'empêche. Dans son réquisitoire, l'avocate générale demande une peine de principe, allant de 2 à 3 ans de prison avec sursis au nom des circonstances atténuantes, car la société ne peut fermer les yeux sur un parricide, car un individu ne peut rendre soi-même justice, si désespérée soit sa situation. Une seule journée d'audience suffit à envoyer le jury en délibération. 40 minutes plus tard, le verdict tombe dans la soirée du 18 mai. Ida Bossard est jugée non coupable, acquittée au titre de l'article 328 du Code pénal sur la légitime défense. À la sortie du palais de justice, les journalistes l'assaillent. Elle leur répond « Ça me fait drôle d'être dehors. Je suis contente. Je suis acquittée. Je suis contente. Je suis écœurée des néo-nazis. Je lui en ai voulu d'être nationaliste. Je lui en ai voulu d'être méchant avec nous. Maintenant, je vais essayer de tout oublier. Je vais refaire une vie toute neuve. Je vais vendre des petites fleurs, je vais m'occuper de ma fille. Je ne vais pas lui faire vivre la vie que j'ai vécue. Les séquelles ne s'effacent pas pour autant, en un procès. L'emprise du père Bossard a fracassé sa famille, à jamais. Ida continue son errance, sans travail, sans domicile, perd la garde de son enfant, ses supposées maltraitances dénoncées par ses sœurs aux services sociaux, étonnamment plus réactives qu'autrefois. On apprend qu'au début des années 90, Christine, l'aînée, perpétue l'héritage nationaliste, lutte pour le maintien de l'apartheid en Afrique du Sud. Le vendredi 26 septembre 2008, Ida retourne à Salomé. Dans la salle des fêtes, reconvertie en cinéma, elle présente à 500 spectateurs « Pleure en silence », une fiction coécrite avec le réalisateur John Gabriel Biggs, qui condense en 1h30 les 8 jours précédant le parricide. Les Saloméens découvrent, effarés, ce qu'ils se sont évertués à ne pas regarder, la vérité sur le 50 rue Saint-Michel-sur-Loire. On note l'absence du reste de la famille, des sœurs, de la mère, on s'interroge. Frustration de ne pas avoir été conviée au scénario, de ne pas toucher elle aussi les droits d'auteur. De fait, 2 jours plus tard, dimanche 28 septembre, Jacqueline, accompagnée d'une de ses filles, accorde une interview dans l'émission 7 à 8 sur TF1 comme une réponse indirecte. Devant la caméra, elle revendique 20 ans après les faits le meurtre de son mari. J'ai tiré, une fois, pas deux. Je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas le tuer. Je voulais lui faire mal parce que lui nous en a fait. C'est donc Jacqueline qui tire, qui donne ensuite le revolver à Ida afin qu'elle y appose ses empreintes, ainsi que son haut, maculé de poudre noire. Les sœurs Bossard confirment, Ida aurait menti pour protéger sa mère, afin que les jurés montrent plus de clémence pour une jeune fille mineure. Que penser? Que vaut cet ultime rebondissement? Pas grand-chose, nous répond Maître Blandine Lejeune. L'affaire est close, les faits sont prescrits. Un recours n'est pas possible puisqu'il y a eu acquittement. Ida, quant à elle, dément les propos de Jacqueline, ceux dès le lendemain de la diffusion de l'émission. Ma mère m'a appelée en pleurs. Elle s'excusait d'avoir menti sous la pression de mes sœurs. Ce n'est pas elle qui a tué mon père. Elle n'aurait jamais eu le courage. Je l'ai fait à sa place. Clé de l'affaire ou règlement de compte à distance? On ne saura jamais vraiment. Peu importe, nous ferait-on remarquer, car l'essentiel réside ailleurs, dans la fin du calvaire, dans la mort de Bossard. On ne pourrait retenir qu'une version, celle d'Ida, immortalisée sur la pellicule de John Gabriel Biggs. Mais là encore, le temps passé égare. De nos jours, Pleure en silence n'existe plus, ni en DVD, ni sur les plateformes de VOD, ni en copie piratée. Il semble même qu'il n'ait jamais été diffusé en salle, possiblement empêché par les survivants de la famille Bossard. Un film fantôme, inspiré d'une affaire peu à peu oubliée, surréaliste, dont on peine à concevoir qu'il appartient, non à la fiction, mais à la réalité la plus noire. Tout y est exacerbé, insoutenable, inversé. Un parricide débouche sur un acquittement. Cas vraisemblablement unique dans les annales judiciaires, une victime devient un monstre, et sa meurtrière un modèle de courage, une sauveuse.